France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Parce que dans le quart d'heure qui vient, nous serons en quelque sorte en direct de la Renaissance. Botticelli, artiste et designer, c'est une des expositions événements de cette rentrée à Paris. C'est à partir d'aujourd'hui à la Fondation Jacquemart-André. 20 ans qu'une grande expo n'avait pas été consacrée aux Florentins. Et celle-ci raconte à travers une quarantaine d'œuvres de Botticelli, ce qui est exceptionnel, la vie artistique bien sûr, mais aussi économique, politique, intellectuelle dans la Florence des Médicis. La commissaire de l'exposition est notre invitée, 01 45 24 7000, et l'appli France Inter pour vos questions sur Botticelli ou sur l'organisation d'une telle exposition qui a demandé 5 ans de travail. Bonjour Anna de Benedetti.
Bonjour.
On dispose de beaucoup d'œuvres de Botticelli sur une échelle qui irait de Vermeer. On en a très peu à Picasso, il y en a une foultitude. On a beaucoup de Botticelli dans le monde.
Alors, on a beaucoup de Botticelli, on voit d'ailleurs dans les salles de vente régulièrement, ouais. Il y a un Botticelli qui apparaît, mais ce sont des Botticelli de factures différentes, enfin, de plusieurs niveaux de qualité, bien sûr. Ouais. Et c'est toute la problématique aussi de cette exposition qui est de restituer qu'est-ce qui est de la main de Botticelli, qu'est-ce qui est de la main de ses assistants, ouais. Et comment finalement ces œuvres collaboratives sont quand même des Botticelli à part entière.
Et on va revenir là-dessus. Botticelli, designer, dans design il y a dessin. Deux des œuvres majeures de cette exposition sont des illustrations de la Divine Comédie de Dante. Vasari, il y a une note comme ça dans l'exposition, disait lui que c'était un dessinateur exceptionnel.
Un dessinateur exceptionnel qui lui vient effectivement de sa formation première, qui est une formation d'orfèvre.
Oui.
Et les orfèvres, en fait, on leur demandait d'inciser le métal. Donc on pouvait pas s'y reprendre à plusieurs fois, il fallait vraiment que le trait soit précis, fin, tout à fait définitif. Mmh. Et ça, Botticelli l'acquiert très tôt, et c'est vraiment sa marque de fabrique en même temps, puisque quand on regarde aussi la peinture, on a presque la sensation d'un dessin colorié.
Oui.
Et ça, c'est très typique de cette période.
Et les dessins après sont utilisés dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts décoratifs. Vous montrez ça aussi dans l'exposition. Et il y a un aspect d'ailleurs économique qu'on va détailler. Ça sert pour des tapisseries, ça sert pour des meubles, ça sert pour beaucoup de choses différentes, ces dessins de Botticelli.
Oui, c'est un aspect très peu connu du grand public, cette activité de Botticelli. Mais en effet, il produisait énormément de dessins. Et comme son trait était très fin, direct, linéaire, on le qualifie de linéaire en général dans l'histoire de l'art, eh bien, il était tout à fait transposable dans d'autres supports, et notamment la marqueterie, la tapisserie et la broderie, dont nous présentons des exemples dans l'exposition.
Ces marqueteries, ces tapisseries, ces broderies étaient bien sûr vendues. Ça veut dire que cet atelier avait aussi une activité économique, évidemment, et que cet aspect art décoratif en faisait partie.
Oui, alors effectivement, c'est pas Botticelli qui réalisait les broderies,
ouais,
et les tapisseries. Il donnait, ouais, le dessin, et puis c'était des artisans spécialisés.
Ouais, ouais.
Alors oui, il y avait tout à fait une demande à cette époque, et oui, tout à fait.
Et une concurrence entre les ateliers.
Ah oui, c'était un marché extrêmement compétitif. Imaginez Florence saturée d'images, hein, il y avait des images partout. Même les harnais des chevaux étaient décorés. Il y avait des processions, il y avait des décors. Enfin, c'était une ville très joyeuse et festive. Et donc, il fallait se distinguer absolument de la concurrence. Et donc, Botticelli a vraiment excellé en ce qu'il a développé un style extrêmement reconnaissable et inégalable en même temps.
Atelier avec des collaborateurs qui amène à la question que vous avez effleurée au début de cet entretien. Qu'est-ce qui est de l'œuvre de Botticelli? Qu'est-ce qui est de l'œuvre de ses collaborateurs dans ses tableaux? Et à partir de quel moment dit-on, ça c'est une œuvre signée en quelque sorte Botticelli?
Alors c'est un jeu très complexe. Il faut vraiment se remettre dans l'esprit du 15e siècle.
Ouais.
Il faut complètement oublier la notion romantique 19e-iste que l'on a de l'artiste seul face à son chevalet,
ouais,
en proie à une fureur créatrice. Non, c'est pas du tout l'esprit de l'époque. À l'époque, ce sont des ateliers ouverts avec plein d'assistants, ouais, des collaborateurs de différents niveaux, hein. Il y a le jeune adolescent qui commence sa formation, et puis le collaborateur vraiment formé qui vraiment aide le maître à réaliser ses œuvres. Et donc, tout ce qui est dessiné, inventé, créé par Botticelli, et donc considéré comme un Botticelli, même si parfois il demande de l'aide de ses collaborateurs pour exécuter par exemple la couche picturale, alors avec plus ou moins d'intervention de ses assistants. En général, le maître se réserve les parties délicates, les carnations, les personnages, enfin les figures, et puis il va déléguer les paysages, parfois les draperies un peu plus simples, à ses collaborateurs de confiance.
Et il supervise toujours, et quand il ne supervise pas, ça se voit.
Ça se voit, oui. C'est pour ça que toute œuvre de la Renaissance est une œuvre collaborative, notamment, on comprend ça très bien sur les œuvres monumentales, comme les grands retables, par exemple. Et puis, on pose la question, effectivement, à la fin de l'exposition, qu'est-ce que devient Botticelli après Botticelli, hein, puisque son atelier devait receler de trésors incroyables, des esquisses, des dessins préparatoires, que certainement ses derniers assistants se sont partagés. Et ce fameux tableau du musée Jacques Marandré, La fuite en Égypte, montre bien une ascendance botticellienne très forte qu'on reconnaît, puisqu'il y a ce style très reconnaissable. Mais la structure même du tableau laisse un peu à désirer. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des dessins de Botticelli pour faire un dit Botticelli. Il faut aussi la main du maître, la pensée du maître.
Botticelli, inventeur du nu ?
Oui. Tout à fait. Botticelli, inventeur du nu féminin. Alors, inventeur déjà des grandes scènes mythologiques, qui sont maintenant peut-être les plus connues, hein, la naissance de Vénus, le printemps. Et fidèle à sa stratégie de composition, il réutilise la figure de Vénus, de la naissance de Vénus, et la plaque sur un fond noir. Et là, il invente un genre nouveau qui est le nu féminin. Il n'a rien de comparable avant, et après, il y aura beaucoup d'émulation de ce type. On pense bien sûr au nu de Giorgione, au nu de Titien, jusqu'à Cranach même.
Où étaient-ils exposés, ces tableaux de nu, ces Vénus pudiques ?
Alors, ces Vénus pudiques étaient sans doute exposées dans les villas patriciennes florentines, certainement dans un studiolo ou dans un camerino, un cabinet d'écriture, et réservées au regard d'une foule restreinte, hein, dans l'intimité finalement de leur propriétaire.
J'ai pu lire en préparant cette interview que ça faisait de Botticelli un peintre féministe, pour utiliser un mot d'aujourd'hui. Vous reprendriez cette expression, Botticelli féministe ?
Alors, je pense que c'est peut-être une expression un peu trop anachronique pour l'époque. C'est en tout cas un peintre extrêmement sensible, extrêmement observateur de tout ce qui l'entourait, et il a cette idée incroyable de création. Donc, il c'est le grand traducteur des mythes dont s'entourent les Médicis. Le 15e siècle, la deuxième moitié du 15e siècle, c'est le grand retour de l'intérêt pour l'Antiquité, mais une Antiquité passer au filtre florentin. Et Botticelli excelle vraiment à traduire des concepts assez complexes en images.
Est-ce que c'était un homme au service du pouvoir ?
Alors, c'est difficile, au service du pouvoir, au service de ses clients. Et ses clients étaient forcément partie prenante du pouvoir régent à l'époque. Florence, c'est une république, mais nous avons les Médicis, une famille qui domine un peu, qui domine même beaucoup la politique de l'époque.
Et on vit de la commande publique. Je vous dis ça parce que la dernière salle de l'exposition est consacrée à l'époque Savonarole de Florence. Ce moine très austère, qui prêchait dans les églises, et la peinture de Botticelli s'en trouve changé à l'époque de Savonarole.
Oui, il y a une vraie rupture de style. Donc, au début des années 1490, quand Savonarole commence à prêcher dans la cité et à prendre de plus en plus de place, c'est aussi la fin d'un monde, puisque les grands humanistes qui avaient été aux côtés de Botticelli pendant l'âge d'or des années 1480 disparaissent tour à tour. Laurent le Magnifique meurt, son fils est banni de Florence, et Savonarole prend de plus en plus de place avec des prêches très violents qui ne peuvent qu'avoir un impact quand même sur cet artiste très sensible.
Qui s'adapte au nouveau climat politique en quelque sorte.
Qui s'adapte à la nouvelle demande, puisque les Florentins réagissent et finalement demandent un autre style de peinture. Et Botticelli, en bon entrepreneur, essaye de répondre en changeant son style, en changeant l'offre qu'il propose donc aux Florentins.
Avec des couleurs beaucoup plus denses, des corps tourmentés sur les œuvres que vous présentez.
Exactement, une grande théâtralisation, des couleurs plus denses, plus contrastées. rester, et puis parfois quand même la tentation de continuer sur la grâce qui caractérise vraiment son art, avec quelques œuvres que nous montrons dans cette dernière salle qui sont tout à fait uniques.
Et avec un crucifix voilà, de procession qui est peint, et peint des deux côtés en plus.
Peint des deux côtés, puisque c'est un objet de procession, donc on le promenait finalement, on le transportait dans les cloîtres, autour des cloîtres, et donc il est peint des deux côtés, et là on voit vraiment une image de toute beauté qui répond finalement au sermon de Savonarole qui prêchait l'acceptation du sacrifice du Rédempteur, et qui au filtre de l'art de Botticelli est une image apaisée, sublimée.
L'impact de Savonarole, on en a parlé. Je voudrais qu'on aille au Standard. Est-ce que Juliette est déjà présente au Standard? Pas encore. C'est pas grave.
Oui, c'est bon.
Juliette au Standard. Bonjour.
Bonjour. Voilà, je connais Botticelli pour avoir visité les musées à Florence il y a quelques années, et je m'intéresse à la peinture féminine. Et je voudrais savoir si dans les ateliers de Botticelli, il y avait à l'époque des peintres féminins du style d'Artemisia, mais je ne sais pas si elle est de cette époque exactement. Voilà.
Anna de Benedetti.
Alors, on n'a pas de traces de femmes peintres à l'époque. Il faut savoir que la société était assez séparée entre les femmes qui quand même devaient rester chez elles et être de bons modèles d'épouses et de mères, et puis les hommes. Donc, c'est quand même une société relativement patriarcale. Et les femmes peintres commencent plus tard, enfin, connues en tout cas, commencent plus tard. Mais par contre, dans les couvents, dans les confraternités religieuses, il y avait beaucoup d'artisanes qui effectuaient effectivement des broderies, des tapisseries. Et ben bon, là, ce sont des petites mains anonymes.
Est-ce que la crise sanitaire vous a compliqué le travail pour organiser une telle exposition ?
Alors oui et non, on a été obligé effectivement de déplacer, de reporter d'un an l'exposition qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais c'est finalement une surprise, puisque il y a eu un bon côté. Certains prêts, très peu, deux prêts qui n'étaient pas disponibles à l'époque, ont été rendus disponibles par ce déplacement de date, et donc bon, c'est finalement un bonheur que ça a été déplacé d'un an.
Il y a plus de solidarité entre personnes des musées à travers le monde dans un contexte pareil.
Oui, on a vu l'année dernière, quand on a demandé de faire vraiment ce déplacement, donc de reporter tous les prêts, un élan de solidarité incroyable, et tous les musées vraiment du monde entier, d'une seule voix, ont été au rendez-vous et ont immédiatement accepté.
Encore quelques questions sur Botticelli et sur sa vie et sur sa postérité. Pourquoi a-t-il été oublié pendant quoi, 4 siècles après sa mort, et avant de revenir à la mode entre guillemets à partir du 19e siècle? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il s'est passé que la réponse qu'il a donnée finalement à cette influence de Savonarole n'était sans doute peut-être pas celle attendue. Donc, en 1510, quand il meurt, finalement, il est très vite oublié. Et puis, il faut aussi voir que la scène culturelle, enfin Florence, qui était vraiment au centre des arts, cède le pas à Rome. Et c'est à Rome, finalement, grâce aux grandes commandes du pape, que les grands artistes florentins sont attirés. Michel-Ange, par exemple, mais aussi le jeune Raphaël, qui était passé par Florence et qui se retrouve à Rome. Et c'est donc ces deux figures, Michel-Ange et Raphaël, qui vont vraiment dominer l'histoire de l'art jusqu'au début du 19e siècle.
Et qui le sort de l'oubli au 19e ?
Alors, c'est un processus assez lent et progressif en fonction des aires géographiques et des nations. L'ouverture des offices en tant que musée donne à voir beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas visibles au public. Et puis en Angleterre, nous avons cette grande redécouverte grâce aux pré-raphaélites qui s'inspirent réellement de l'art de Botticelli pour fonder leur nouvelle esthétique. Les pré-raphaélites, comme leur nom l'indique, se situant dans l'art avant Raphaël.
Merci Anna de Benedetti d'être venue dans les studios de France Inter. Botticelli, artiste et designer, musée Jacquemart André à Paris. C'est ouvert, il y a déjà beaucoup de monde devant, me disiez-vous.
Énormément.
Eh bien, tant mieux pour vous.